Oh. Bonsoir, salut Demi. On va pouvoir faire ça en français, du coup. Ça fait 3 semaines que j'ai des semaines absolument harassantes, extrêmement chargées, et j'ai absolument rien préparé pour ce soir. Ce qui n'est pas un problème. C'est toujours un petit peu. J'ai toujours une hésitation sur. Sur la quantité de choses à préparer, ça va parler à Lisa. Et je me suis dit là, en m'asseyant, je me suis dit parfois je suis très inspiré par des talks qui me permettent de m'éclairer, de m'orienter dans la pensée, ça m'aide beaucoup. Et parfois, ça m'aide beaucoup aussi et ça m'inspire beaucoup d'être le témoin d'un enseignement où c'est juste la personne est juste là, quoi. Et manifeste au-delà des par-delà les mots. Et ça me faisait aussi penser il y a des années quand Amy travaillait encore au Herald Tribune et que je sais plus quand c'était, le vendredi soir quand on était au Red Earth Center et que elle sortait tout juste du boulot et elle arrivait et puis elle avait rien préparé et puis c'était comme ça. Mais je me suis aussi interrogé cette semaine, depuis 3 semaines où je suis totalement débordé, j'ai un peu moins le temps de m'asseoir et tout ça, je m'interrogeais sur la manière dont ma pratique transparaissait, s'incarnait dans ces moments-là. Et une autre question que je me pose souvent, c'est comment est-ce que je pourrais la formuler? En quoi cette pratique est-elle spécifique et en quoi est-elle zen ou bouddhiste ou autre chose et en quoi ça se distingue d'autre chose? Et pendant ces périodes extrêmement denses, moi, une chose qui m'est venue, et ça, je me suis souvenu à la fois du workshop qu'on a fait, il n'y a pas très longtemps, sur les 5 énergies du Bouddha. Je me suis souvenu aussi de cette métaphore que Bernie Glassman y prend sur la cuisine et les ingrédients. Et je me disais, est-ce que. Voilà, c'était cette histoire de. Est-ce que les choses sont équilibrées? Est-ce que ça va trop dans un sens? Et je crois que c'était. Oui, c'était hier. Hier. Je saturais tellement de ce que j'étais en train de faire et de ces écritures extrêmement corporettes, etc., que je faisais. Et j'avais l'impression que je me disais, le langage est tellement pauvre et tellement formaté. J'avais l'impression que ça manquait de créativité en fait, ça manquait de oui, de créativité. Et donc je suis parti à la librairie et je me suis acheté 5 livres de poésie pour juste feuilleter un peu de poésie pour remettre un peu de vie dans tout ça. Et je pense que par rapport à cette deuxième question que je me pose sur le sur cette spécificité, enfin, en quoi est-ce que c'est spécifique? Oui, c'est avec ces histoires des 5 familles du Bouddha et de comment on vient, où les ingrédients de Bernie Glassman, comment on intègre ces différents ingrédients dans nos vies. J'ai reçu tout à l'heure ça m'a un petit peu perturbé, j'ai reçu un message tout à l'heure, un mail tout à l'heure d'une personne de l'institution dans laquelle je travaille, à Fontainebleau, où j'enseigne la méditation, et elle me dit, ah, c'est une personne qui est en charge des élèves, des activités des élèves. Et elle dit, ah bah, j'ai découvert que, je sais pas quand est-ce que ça a démarré, je pense qu'il y a eu une séance, il y a une personne le mercredi qui offre de la méditation. Donc, c'est très étonnant, puisque moi, j'étais pas au courant, et ça, c'est mon domaine, donc qu'est-ce que... Moi, j'arrive, je suis là le lundi, donc bon, il y a quelqu'un le mardi, et elle me dit, ah, donc j'y ai assisté, et bon, en fait, on a fait des étirements. On a fait des healing exercises, je ne sais pas bien ce que ça recouvrait, c'est healing exercises, et puis à la fin, on a fait 5 minutes de méditation. Mais, et elle a rajouté, j'ai trouvé ça très reposant, très sympa, très reposant. Bon, outre le fait que j'étais un petit peu étonné parce que j'étais pas du tout au courant de cette initiative et que ça vient empiéter, ça vient faire doublon ou pas sur ce que je faisais. Et je me suis dit, mais est-ce que ça fait doublon en fait? Et encore une fois, qu'est-ce qui est spécifique? Et quand je comprends tout à fait que c'est une absolument légitime de chercher une pratique relaxante et décontractante et bien pour le corps, et ça permet de faire des étirements, etc., ce qui est très bien. Mais j'ai aussi l'impression qu'en pratique, on fait autre chose que ça. On fait plus que ça. Et que, encore une fois, dans tous ces ingrédients et toutes ces qualités qu'on cherche à développer, la dimension, investigation, la dimension self-inquiry est très présente en fait. Et puis, ce que je ne cesse de répéter, la dimension interpersonnelle, relationnelle, et donc où c'est pas juste, ah oui, c'est très plaisant pour le corps et je ressors de là, je suis très décontracté. Je pense il y a quelque chose de beaucoup plus large qui est partagé dans cette tradition, moi qui continue à ne cesser de m'inspirer, quoi. Oui, et ce qui est aussi, ce qui était assez clair aussi, c'est que je trouve que l'assise aide vraiment beaucoup, m'a beaucoup aidé là ces dernières semaines aussi à être présent et vraiment juste faire les choses, quoi. Pas trop tomber dans la procrastination, il n'y avait pas le temps en fait. Il n'y avait même pas la marge de manœuvre pour procrastiner. Mais je pense que ça aide, ça aide beaucoup à aborder les choses avec calme en fait. La pression que je devais supporter, et ça quand même, ça, je pense que ça aide pas mal. Ça aide pas mal. J'ai toujours souvent qui me vient cette image que je me fais de cette histoire où Dogen revient de son voyage en Chine et on lui dit, t'as ramené quoi après toutes ces années d'études? Et il dit, hey, je reviens les mains vides. Et là aussi, c'est beaucoup plus que je me sens bien et I'm relaxed et comment on vit sa vie à l'aune de au regard de cette expérience et en manifestant cette expérience de d'être là les mains vides sans savoir et avancer à chaque fois, et à chaque fois c'est l'inconnu, à chaque fois c'est une aventure, à chaque fois il faut recommencer, à chaque fois on sait pas trop où on va, et dans le même temps, je trouve que l'étude que l'on fait des textes et de l'histoire et des enseignements qui nous ont été transmis permet de non pas d'avoir des réponses, mais d'avoir des panneaux d'indication ou quelque chose comme ça, des boussoles, des pointeurs vers tout un ensemble, je trouve, de qualité à développer pour être plus large, pour être plus présent, pour être plus empathique, plus ouvert, plus vaste. Et c'est remis en jeu en permanence, en fait. En permanence. En permanence, on a à recouvrir notre véritable visage. Et c'est comme si même au milieu du tumulte, la constance de la pratique permet de se souvenir que, ouais, on peut revenir à ça. Pour venir à une stabilité, que c'est accessible, que c'est là, Amy m'avait proposé la semaine dernière de faire un talk et j'avais dit non, mais là vraiment, vraiment là je peux pas. J'avais vraiment, vraiment pas le temps. J'ai pas l'habitude de lui dire non. Et là, je lui avais dit, tu sais, j'ai vraiment rien à dire. Mais j'ai dit, bon, c'est pas grave. Oui, j'ai l'habitude, ce que j'ai pas pu me tenir ces dernières semaines, mais j'ai l'habitude d'étudier le matin et de me nourrir. Et là, je pouvais pas. Mais c'est intéressant aussi de voir comment, qu'est-ce qui se passe quand je me nourris pas, quand je me nourris pas de cette façon, en tous les cas. Et pour revenir à ces trucs d'énergie du Bouddha, c'est comme si tout d'un coup c'était il y avait une des énergies qui était vraiment l'énergie de l'action qui prenait le pas sur toutes les autres. C'est-à-dire il n'y avait plus le temps de faire autre chose, donc il fallait juste agir, 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 agir. L'énergie de la contemplation, ça pouvait, il y avait beaucoup moins de place pour ça. Et bon, et de se dire, bon, c'est qu'un temps, c'est qu'un temps, et il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, quand c'est trop déséquilibré, mais en même temps, quand c'est ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'il y a à faire, donc comme ça. Et de voir aussi, encore une fois, là, c'est vraiment, je trouve que la pratique aide énormément à ça, et de voir les pensées qui surgissent, et les potentiels. Idées parasites de jugement, d'agacement, de ça pourrait être, ça devrait être autrement, ça pourrait être autrement, etc. Et juste de lâcher ça, et de lâcher ça. Et en même temps, et dans le même temps, avoir bien ancré cette idée de voilà, qu'il y a différentes sphères à nourrir. Pas différentes bouches affamées, mais différentes sphères. Différents champs. Et j'avais partagé ça à la dernière retraite avec Déby sur mon étonnement quand j'ai lu là dernièrement le planning, l'emploi du temps des moines de Heiji, du grand temple de Heiji au Japon, grand temple Soto, où en fait ils passaient le plus clair de leur temps à non pas à s'asseoir sur un coussin comme j'aurais pu l'imaginer, mais en fait à nettoyer le monastère, à préparer, nettoyer essentiellement, nettoyer et probablement être dans les jardins également, et à cultiver, et à faire je ne sais pas quoi, mais finalement assez peu à s'asseoir sur un coussin. Il y avait, je crois, 1 heure le matin et 2 heures le soir, c'est tout. Et le reste du temps, c'était nettoyage des escaliers, et samou, et préparation des repas, etc. Donc, j'étais très étonné parce que moi qui ai l'impression qu'en retraite, finalement, bon, même si commence tôt, on finit un peu tard, etc. Et qu'on s'assoit, on a l'impression qu'on s'assoit beaucoup. J'ai toujours l'impression que finalement, on s'assoit pas tant que ça. Je me dis, bon, 5-6 heures par jour, c'est pas fou non plus sur une journée de 24 heures. Et en fait, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est aussi et surtout peut-être que c'est absolument pas annexe en fait, ces histoires d'activités non contemplatives. C'est pas du tout annexe, quoi. Que c'est une partie intégrante de notre existence et c'est ni moins bien ni mieux et c'est voilà, c'est ce qu'il y a à faire. Mais là où ça change, c'est est-ce qu'on se dit c'est quelle galère, il faut s'occuper de se laver, de faire la cuisine, faire la vaisselle, faire les courses, etc., faire les taxes, faire tout ça. Quelle galère, et ça me m'éloigne de ce qui est vraiment très très important. L'essentiel, ou est-ce que peut voir que c'est juste un jugement qu'on a sur les choses. J'ai aussi beaucoup repensé ces derniers jours à la profondeur que c'est cette célèbre phrase de Bernie qui disait « Oh, it's just my opinion ». Je pense que c'était même l'adresse de son site internet, ou peut-être même ça existe toujours, du peacemaker ou je sais pas quoi, mais c'était « It's just my opinion », c'est juste mon opinion. Et je réfléchissais l'autre jour, ça m'a frappé. Je l'ai entendu, je sais pas, c'est comme si je l'entendais pour la première fois de cette manière où je me suis dit c'est il peut dire émettre une opinion, et le fait de dire it's just my opinion, de voir combien il n'est pas en train de dire que c'est la vérité, il n'est pas attaché à sa vérité. C'est pas non plus une sorte de ça sert à rien de parler parce que de toute manière, à quoi bon? It's just my opinion. Et d'avoir le courage aussi, juste de dire, it's just my opinion. Je pense depuis. Ça va parler à Lisa depuis je crois, le Purple Rakusu, et que en 2017, je me disais toujours, et toujours maintenant, voilà, oui, qu'est-ce qu'on raconte? Pourquoi ma parole plutôt que celle de quelqu'un d'autre? Et je pense de pouvoir juste dire, ouais, ok. It's just my opinion. Or it's just my experience. Peut-être c'est plus facile de dire, oh, it's just my experience than my opinion. J'ai vraiment l'impression que C'est ça, là, ce que j'aime tellement avec cette tradition, mais tradition au sens large, pas juste zen, tradition, cette culture de l'éveil transmise par toutes les traditions du bouddhisme. J'ai l'impression qu'il y a tellement d'images, d'histoires, de rituels, et on peut naviguer au milieu de tout ça et s'inspirer et s'inspirer de tout ça. Il y a des choses qui nous parlent à des moments, des choses qui nous parlent moins, et qu'on peut continuer. Moi, je trouve que je continue à puiser sans cesse, et j'ai l'impression sans arrêt d'extraire du sol des trésors, vraiment, qui m'inspirent et qui m'aident. Et qui m'aide et qui pose comme des sortes de repères à des moments où je me sens bancal ou. Mais c'est jamais, j'ai jamais l'impression que c'est du sort de prêt-à-penser ou de directive stricte. Enfin, j'ai jamais cette impression-là non plus. Comme si c'était une sorte de grand contenant, presque contenant sans bord, mais en même temps qui contient quelque chose comme ça. Et qui n'est pas figé aussi, je trouve. On continue à venir alimenter le terreau des histoires par des livres, par des anecdotes, par nos vies, par nos rencontres. Ouais. Peut-être c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Enfin, pour l'instant. Si vous avez des choses à dire, vos opinions.
Merci. Déjà, par rapport à ce que tu disais, ça me... tout de suite, ce qui m'est venu, c'était The Gateless Gate. Une porte sans porte. Une rivière sans... des bords sans bord. Et merci pour ce que tu partages, pour cet enseignement. Dans toute sa le mot c'est pas simplicité mais dans toute sa genuine je sais pas comment on dit en français son authenticité Et c'est pas facile, enfin, j'admire parce qu'effectivement, ça me parle ce que tu me dis et j'en suis tout au début, mais la semaine dernière, quand tu as dû dire à Amy que tu n'étais pas dispo, elle m'a demandé de, en tout cas, de d'ouvrir et dire qu'il n'y aurait ni toi ni elle. Et Et à ce stade, moi, je fais des talks, je fais des cercles de parole. Découvrir d'une certaine façon, ou se donner comme ça, après une journée éreintante et enfin, éreintante ou pas, peu importe en fait, mais au milieu de notre vie du quotidien, en même temps, c'est juste ça. Mais il y a un certain. Enfin, pour moi, pour le moment, ça va falloir un courage de montrer ça, en fait, juste ça. Donc, merci.
Ouais, je dans les moments de doute ou enfin vraiment parce que c'est comme si dans ma tête il y avait deux côtés qui étaient vraiment très très vraiment très j'ai deux images qui sont presque diamétralement opposées. J'ai d'un côté parmi les personnes qui m'inspirent le plus évidemment sur le plan de tous ces postes, etc. Et c'est vraiment Stephen Batchelor c'est toujours, ça vraiment, ça a construit ma compréhension. Et à l'inverse, c'est vraiment aussi, donc, j'ai toujours cette image dans mes premières années de pratique avec Guénot. Où c'était vraiment, j'ai aucune, j'ai aucune, j'ai, c'est pas, j'ai même pas de, j'arrive pas à me souvenir d'un truc vraiment qu'elle aurait dit, que j'aurais entendu, qui m'a vraiment frappé. Mais en fait, j'ai toujours en mémoire, mais vraiment en mémoire corporelle, juste sa présence et la manière dont elle cherche justement cette authenticité. On voit qu'elle est au plus près, quoi. Et ça touche en fait. Ça touche beaucoup. C'est vraiment. Et d'une certaine manière, j'ai toujours l'impression aussi, et c'est très encourageant, enfin ça peut être très encourageant que. Pour quand on commence à enseigner qu'on est dans le doute et j'en suis là aussi, de se dire en fait ce qui nous touche aussi quand enfin moi j'ai l'impression que c'est très touchant d'entendre quelqu'un parler de ses fêlures, de cette dimension ordinaire, peut-être plus qu'une personne qui on a l'impression que la personne serait tellement extraordinaire que c'est très. Il y a quelque chose comme ça aussi avec l'iconographie des Bouddhas où parfois on a l'impression quand on regarde ça m'a fait tellement rire quand j'ai étudié là tous les signes extraordinaires que l'on attribue au Bouddha, corporel, etc. Enfin, vraiment des caractéristiques physiques et aussi des capacités des capacités extraordinaires. Je me pose la question dans quelle mesure c'est plus inspirant que juste quelqu'un qui juste se présente. Devant nous, dans toute sa simplicité, en fait, et dans tout sa dimension ordinaire. C'est vraiment, je me pose souvent cette question-là. Je pense que ça dépend peut-être des moments où on a besoin de l'un et de l'autre, à des moments pour s'inspirer, je sais pas. Je ne sais pas. Et je pense, Lisa, que aussi. Tu vois, j'aime bien me dire souvent quand il y a des personnes nouvelles et on introduit les entretiens dans la pratique, moi j'aime vachement penser aux entretiens comme une sorte de méditation active, une méditation interpersonnelle, où tu vas pas voir l'enseignant parce que tu as un truc particulier à dire, une réponse à apporter, mais pour faire cette expérience de là, je peux faire ce que je fais sur mon coussin devant une personne dans un cadre extrêmement privé, fermé, etc. Et puis après, c'est d'une certaine manière, c'est la même chose, mais devant beaucoup plus de gens. Mais on essaie de c'est vraiment cette tentative, ce training que l'on cherche à développer, de se mettre en intimité avec soi-même, en intimité avec soi-même, juste soi-même avec soi-même, soi-même avec devant l'enseignant, ce qui déjà pas forcément facile, et puis soi-même devant les autres, ce qui est aussi encore un autre truc, mais c'est vraiment cette même capacité qu'on cherche à manifester en fait, sous différentes formes de pratique, je crois. Et de se dire, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile, si violent, si impressionnant de se mettre dans cet état de vulnérabilité devant. Alors, tu fais ça dans le cadre d'une retraite avec des gens bienveillants, etc., hein, qui sont potentiellement prêts. Et puis, encore l'étape d'après, c'est. Comme dit Amy à chaque fois après les camps, c'est bon, et dans ta vie, ça se passe comment? Cette capacité à être ouvert, à être intime, à être vulnérable, à être au plus près. Oui, Debbie.
Enfin, ça, enfin, il y a deux choses vraiment qui me causent. Cette histoire de l'aspect des activités très simples. Moi, j'ai commencé pendant Covid, j'allais à Dana en ligne. Et on n'avait rien à raconter dans les cercles parce qu'il ne se passait rien. Enfin, on avait notre pratique et ce qu'on lisait, mais. Comme on était tous enfermés dedans, c'était un peu réduit comme champ de comment éblouir les copains, ben, il n'y a rien. Et j'avais commencé à ce moment-là, je l'ai lu, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup faire la vaisselle. Je ne le dis pas trop ouvertement parce que il peut y avoir de l'abus à ce niveau-là. Mais pendant cette période, je me suis mise à vraiment faire la vaisselle. D'ailleurs, j'ai changé de main. Je suis un peu ambidextre, mais moins que ce que je pensais quand j'ai commencé à faire ça, à essuyer de l'autre côté et tout ça. Et c'est vraiment régalant. Hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup la manipulation des membres et tout ça dans la danse, mais c'est très. Enfin, ça prend bien la tête. C'est très sympa. C'est de l'eau chaude, il y a des bulles. Enfin, enfin. Quand je peux le matin, parce que normalement ici le matin je suis seule et c'est très silencieux, bon, le petite demi-heure avant l'assise, faire ça ou faire le lit avec. Le lit c'est moins régalant parce qu'il n'y a pas de flotte. Moi j'aime bien les choses à eau, mais vraiment avec attention. Au lieu de juste kind of stagger around, tu es en train de faire quoi? C'est le coussin, sans le et tout ça. Quand je peux. Bon, une fois que je suis à la gare du Nord, je perds un petit peu le feeling de ce genre de truc. Quoique, bon, ça dépend des moments. Mais moi, je trouve, enfin, j'entends surtout faire du jardinage dans un jardin zen au Japon. Ça, jour après jour, peut-être pas, mais j'entends que ça doit être, ben,
est super pratique quand même. Surtout que bon, enfin, ils font ça toute la ou passer de lavage par terre aussi. Moi, j'ai du carrelage par terre. Laver par terre, ça peut me prendre aussi. Donc ça, cet aspect-là. Et puis le truc de Bernie, je trouve que quand on dit ça, ça change complètement. Pourtant, je suis une bagueureuse. Je veux que mon opinion passe. Je veux gagner l'argument. Mais dès que je dis ça, ça switch complètement le truc à. Parce que quand je le dis, je me rends compte que c'est il n'y a que ça. Ça n'a rien à voir avec rien, sauf ce que j'ai extrait de toutes les informations que moi personnellement j'ai ramassées. Ce que j'ai un peu abandonné à espérer que je peux savoir ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un d'autre, même les gens que je connais bien. Mais ça, je n'ai rien d'autre dans ma poche que mon constat après avoir regardé les infos, écouté un speech ou machin. Et c'est dès que je le dis, tant que je ne l'ai pas dit, je suis à peu près sûr que je suis la reine du monde. Mais dès que je dis ce truc-là, boum, ça fait tomber tout le truc. C'est très brillant. Surtout, Bernie n'était pas un mec humble. Donc c'est d'autant plus fort qu'il arrive à ce moment-là à dire ça. Et venant de quelqu'un qui avait une super pratique et tout ça, non, c'est très très fort. Quand je peux le dire avec conviction, je trouve que ça, pas déjà, ça désamorce le côté où je vais montrer à tout le monde combien je suis brillante et blablabla. Et c'est vrai. Ben, c'est vrai pour moi et donc du coup c'est vrai pour eux aussi. Donc tout le monde au même enseigne. C'est vrai que c'est très intéressant. Merci toi.
Oui, pour donner un peu de contexte à Bijan, Bernie, c'est Bernie Glassman, Bernie Tetsugen Glassman, qui est décédé il y a quelques années et qui a été le premier successeur de Maizumi Hiroshi. Donc Maizumi Hiroshi, qui était le japonais pionnier qui a fondé le centre zen de Los Angeles, dont on est les héritiers. Donc c'est quelqu'un dans le lignage qui est extrêmement important, qui a été aussi très important par son enseignement et il a été aussi le président pendant un temps l'abbé du Los Angeles Zen Center et le président de White Plum, qui est l'organisation ombrelle qui accueille tous les enseignants du lignage. Et il était, c'était un bonhomme assez incroyable. Il a créé beaucoup de choses, beaucoup de structures, et il a fait beaucoup dans le social. Donc, avec des projets comme la Greystone Foundation, Greystone Bakery aux États-Unis sur la côte Est. Et des retraites de rue. Il a initié aussi les retraites de rue, les retraites interconfessionnelles, les Bearing Witness Retreat à Auschwitz et dans d'autres endroits. Enfin, c'est quelqu'un qui a été très important. Et ça rejoint aussi It's just my opinion, mais qui, ça, je trouve ça très intéressant dans le lâcher prise, qui s'est aussi beaucoup intéressé au clown. Donc il y avait aussi toute cette dimension où il a travaillé avec un clown qui s'appelle Moshe Cohen. Et donc aussi dans cette capacité, et donc il était capable dans des rassemblements, dans des retraites où les choses étaient extrêmement sérieuses, où les gens étaient en robe, etc., d'arriver tout d'un coup se pointer avec un nez rouge pour voir comment, et puis faire de la disruption, comme on dit. Et comment nous, en tant qu'élèves, voilà, zen, comment on réagit face à un événement totalement inattendu? Et ce qui est une manière aussi de renouveler, voilà, je parlais d'inspiration au début, de renouveler aussi l'enseignement avec des nouvelles stratégies pédagogiques d'une certaine manière. Et peut-être même plus que des stratégies pédagogiques, mais aussi, il y avait quelque chose de très profond dans le, dans, dans, la manière dont il a abordé cette pratique du clown, d'être capable de chercher son clown à soi, de lâcher nos opinions, d'être capable de se moquer de soi-même, etc. Enfin, ça fait partie de ces multiples pistes qu'il a initiées et qui sont très fertiles. Et même à la fin de sa vie d'ailleurs. Moi je l'ai vu pour la dernière fois en 2017. Je pense qu'il est mort en 2000, je sais plus en quelle année il est mort, 2018 peut-être, 2019, je sais pas. Il était en fauteuil roulant, il avait eu un AVC et il continuait à faire des blagues et à être capable d'avoir beaucoup d'humour. Et en même temps, c'était pas effectivement, c'était comme tu dis, Debbie, c'était pas un personnage facile, facile. Ouais, mais ouais, it's just my opinion. C'est quelque chose qui lâche. Ouais. Ok. Bien, mais s'il n'y a rien d'autre, on peut s'arrêter là. Merci de ce partage.
Merci.